Voilà, bah écoutez, alors ce matin, comme vous le savez, c'est la deuxième partie d'un message qu'on a démarré la semaine dernière, que j'ai intitulé tout simplement « 12 hommes ordinaires ». 12 hommes ordinaires, c'est vraiment le portrait des disciples de Jésus. Il y avait 12 disciples et on les prend un à un. Et la semaine dernière, nous avons vu le portrait de l'apôtre Pierre. On va juste lire le texte, si vous avez avec moi, dans Marc chapitre 3, à partir du verset 13. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc je vais vous lire ces quelques versets. Marc 3, 13, « Il monta, parlant de Jésus, il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. » Alors la semaine dernière, comme vous le savez, nous avons commencé cette série en regardant le portrait de l'apôtre Pierre. Alors je ne vais pas revenir dessus, on a simplement regardé ses points forts et ses points faibles. Vous pouvez retourner, écouter le message sur le site si vous ne l'avez pas entendu. Mais plusieurs personnes m'ont dit, mais John, tu as oublié de parler du fait que Jésus a changé le nom de Pierre. Hein, c'est ce qu'on a vu même dans le verset 13, il monte dans le verset 16. Voici les 12 qu'il établit, Simon qu'il nomma Pierre. Et c'est vrai, dans Jean 1, 42, il lui donne un nouveau nom. Voici ce que ce texte dit. Jésus, l'ayant regardé, dit à Pierre, donc, « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas. » Donc, c'est un nom araméen, ce qui signifie Pierre. Donc, la question, c'est pourquoi. Donc, je vais juste dire un mot par rapport à ça avant d'entamer les autres portraits. La réponse, je pense, est relativement simple. Jésus a donné un nouveau nom à Pierre, ou celui que nous appelons Pierre aujourd'hui, un nom qui correspondait à son nouveau potentiel. Vous savez, Simon l'a vu, c'était un homme d'extrême, il vacillait beaucoup, vous vous rappelez? Et donc, ce nom Simon voulait tout simplement dire celui qui a entendu. Alors c'est vrai que Simon a entendu l'évangile, il a accepté l'évangile, et ce nouveau nom, Pierre, veut simplement dire Pierre, comme un mini-rocher. D'accord? Et donc, il est en train de dire à Pierre qu'il allait devenir un rocher, une pierre. Et c'est intéressant que chaque fois que Jésus l'appelait par le nom Pierre, il savait ce que Jésus était en train de faire dans sa vie. Pierre savait qu'il était en train d'être transformé par le Seigneur. C'est intéressant que parfois, dans la Bible, vous verrez qu'on l'appelle Simon. Même il a déjà reçu son nouveau nom, on l'appelle parfois Simon. Simon est utilisé dans deux instances, souvent lorsqu'on parle de quelque chose de séculier par rapport à lui, par exemple la maison de Simon ou le bateau de Simon. Ou lorsqu'il est réprimandé aussi, on l'appelle Simon. Par exemple dans Jean 21, Jésus dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Donc il le réprimande. Mais ce nom Pierre est toujours utilisé lorsqu'il parlait de lui en tant qu'homme spirituel, fondé, l'homme de Dieu que Jésus était en train de faire. Intéressant, dernier petit point sur son nom. Dans l'évangile de Jean, le nom Simon-Pierre, les deux noms, un après l'autre, apparaît 17 fois. Pourquoi ? Ben voici une bonne hypothèse, je pense, c'est que Jean le connaissait très bien, Pierre. Il a passé 3 ans avec lui. Et peut-être que Jean ne savait pas trop quoi penser de Pierre. Il le connaissait très bien. Alors, puisqu'il ne savait pas s'il était parfois plus Simon ou plus Pierre, il l'appelle tout simplement Simon-Pierre. Voilà. Et donc, c'est quand même pas mal. Et moi, ce qui m'encourage dans ce petit point, c'est que voilà, le Seigneur regarde, même à vous et à moi, avec notre potentiel. Et ça, on va le voir aussi aujourd'hui avec Jacques et Jean. D'accord ? Donc, je ferme la parenthèse sur Pierre et on attaque maintenant le deuxième nom. Alors, il n'est pas ici dans cette liste telle quelle, je voulais le prendre, il est au verset 18. Premier nom, André, c'est le frère de Pierre, parce que je voulais garder les deux frères ensemble, d'accord ? Donc, regardons rapidement le portrait de André, sous-titre, celui qui amène les gens à Christ. Alors, comme on le sait, André est le frère de Simon-Pierre. Dans Marc 1:16, c'est ce qu'il dit, voici les 12 qu'il établit Simon, qu'il donne à Pierre. Et ensuite, verset 18, le nom André, mais dans le verset, attendez voir, c'était dans Matthieu 4:18, où en fait, on apprend qu'ils sont vraiment frères. Dans Matthieu 4:18, si je ne me trompe pas, voilà, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc, ils sont pêcheurs. Ils avaient donc le même père qui s'appelait Jonas, selon 1 Jean 1,42. Ils étaient originellement de la ville de Bethsaida, mais puisqu'ils étaient pêcheurs, ils ont déménagé à Capernaüm. C'est là que Jésus les rencontre en train de faire de la pêche à Capernaüm. Et vous rappelez, c'est là où Jésus leur annonce qu'il va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Son nom, André, veut dire viril, homme ou masculin. Et en fait, son portrait est assez facile à dépeindre puisqu'il n'y a vraiment que trois incidents majeurs dans sa vie qui nous sont relatés dans les Écritures. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que chaque fois qu'on rencontre André, il est en train de faire la même chose. Il est en train d'amener quelqu'un à Jésus. Regardez premièrement Jean 1. Et le verset 35, Jean 1, 35, alors j'avais un PowerPoint bien sûr, mais il n'y en a pas aujourd'hui, donc il faudra simplement écouter, d'accord, sans le visuel. Premièrement, il conduit lui-même son frère à Jésus. Dans Jean 1, 35, il est dit ceci, le lendemain Jean était, donc Jean Baptiste, encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous ? » Elle lui répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jésus et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Et l'ayant regardé, il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc c'est vraiment beau. Ce qu'on voit tout simplement, sans commenter vraiment, il n'y a pas besoin, c'est que Pierre, qui devient le leader des apôtres, a été amené à Christ par son frère, André. Donc voilà, il conduit tout simplement son frère vers Jésus, convaincu de qui est Jésus. Regardez maintenant Jean 6, deuxième événement dans sa vie qui le définit. Jean 6 et le verset 5. Donc il y a une grande foule qui est en train de suivre Jésus. Verset 3, il s'assit sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs était proche, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. Alors selon le verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir, et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Donc c'est une vraiment très grande foule. 5000 hommes veut dire qu'il y avait en plus les femmes et les enfants. Donc certains estiment que la foule était peut-être jusqu'à 20 000 personnes. Donc il y a vraiment beaucoup de monde, d'accord ? Donc, la Pâque et la fête des Juifs étaient proches, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, on verra son portrait un autre dimanche, « Où achèterons-nous les pains pour que les gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Alors, ils ont 200 deniers. Apparemment, vous savez que Judas, il gérait l'argent du groupe, il avait une bourse, ils ont fait un calcul, ils ont vu, on a 200 deniers. Alors, c'est combien 200 deniers? Eh bien, selon Matthieu 20, 1 et 2, un denier représentait le salaire journalier d'un ouvrier. Donc, 200 deniers représentaient environ 8 mois d'un petit salaire. Alors, ça paraît beaucoup, mais pour 20 000 personnes, c'est pas beaucoup. La foule était si grande qu'apparemment, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas assez. Et d'ailleurs, où trouveraient-ils, il n'y avait pas Domino's Pizza qu'on pouvait appeler à l'époque, d'accord, c'était très compliqué, où est-ce qu'ils allaient trouver du nourriture instantanée, ou McDo bien sûr, pour tant de personnes? Alors, que se passe-t-il? Un de ses disciples, verset 8, André, ah, voici notre homme, André, frère de Simon Pierre, lui dit, alors c'est lui maintenant qui s'affiche, qui s'avance, et il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors c'est intéressant, quand la question se pose, mais comment est-ce qu'on va nourrir ces gens? Eh bien, Philippe va voir Judas pour compter combien dans la bourse. André, lui, va chercher quelqu'un pour voir s'il y a de la nourriture. Il trouve un petit garçon, on ne sait pas quel âge il a, dont la maman lui avait préparé un petit pique-nique. Et ce pique-nique contenait 5 pains d'orge et 2 poissons. C'était un petit peu comme des sardines. Allez, 2 tartines de sardines. Alors, il n'y avait que 2 sardines, donc 2 petits sandwichs avec sardines et 3 bouts de pain sans sardines. Et apparemment, André trouve ce petit garçon, discute avec lui, il voit apparemment son pique-nique, et lui dit, tu sais, on a besoin de ton pique-nique. Alors déjà, je me demande ce que le garçon y pensait là. C'est assez amusant de voir cette scène. Bref, le garçon apparemment est impressionné par un de ses disciples. Il dit « Ok, et j'ai l'impression que André amène, parce qu'il dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains. » Donc c'est comme s'il apporte ce jeune garçon qui a son petit pique-nique dans les mains. Il dit « Ben voilà, Jésus, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais bien sûr, Jésus, c'est pas assez pour nourrir toute la foule. Ça, c'est une évidence absolue. Et Jésus, maintenant, verset 10, dit « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prend les pains du petit garçon. C'est marrant d'imaginer ce que ressentait le petit garçon. Là, tout d'un coup, Jésus lui prend son pique-nique, rend grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et il leur donna de même des poissons autant qu'ils voulurent. Et donc, je pense que ce petit garçon avait la première place, le premier rang, et lui voyait ses poissons et ses pains se multiplier et se multiplier et se multiplier et se multiplier devant ses yeux. Incroyable ce que ce petit garçon a vu ce jour-là de ses propres yeux. Absolument époustouflant. Alors c'est intéressant, c'est qui amène ce garçon à Jésus? C'est André. Il a amené son frère à Jésus, là il amène un petit garçon à Jésus. Troisième incident, regardez Jean 12. Finalement, j'ai besoin d'un petit verre d'eau, j'ai un truc dans la gorge, là, c'est gentil. Jean 12 et le verset 20. Restez assez intéressant. C'est la fête des Pâques qui était proche, encore, on l'avait déjà vu, il y a encore là dans Jean 12. Et il y avait des Grecs, des gens grecs, qui étaient montés de la Grèce à Jérusalem. Ils venaient du monde entier pour cette fête. Pour assister à cette fête. Et là, il y a un incident intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Regardez verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, donc ce sont des Grecs juifs qui montent à Jérusalem pour adorer Dieu lors de cette fête, sont à Jérusalem et ils entendent parler apparemment de Jésus. Et là, au verset 21, ils s'adressent à Philippe, de Bethsaida en Galilée. Alors, on verra son portrait un autre jour. Mais donc, apparemment, dans le groupe des 12, il y avait tout le monde avait son rôle. Et Philippe, c'était apparemment une des personnes qui interviewait les gens avant de les amener à Jésus. C'est un petit peu l'impression qu'on a. Parce qu'il s'adresse à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dire avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Donc ces Grecs voulaient absolument voir Jésus. Et donc ils disent à Philippe, c'est gentil, merci beaucoup. Ils veulent absolument voir Jésus. Mais regardez ce que Philippe fait. Verset 22, Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. C'est intéressant, non? Donc il y a une sorte d'ordre qu'il fallait respecter dans le groupe. Philippe, première porte pour accéder à Jésus. Sinon, parce qu'il y avait des foules, hein, il y avait 20 000 personnes qui voulaient voir Jésus, il fallait une sorte de tri. Mais apparemment, André était plus proche de Jésus que Philippe. Donc André, ensuite, va voir, Philippe va voir André, il dit, André, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est Grecs qui peuvent voir Jésus? André dit, oui, je pense que ça passe. Donc André et Philippe amènent les Grecs à Jésus. Et verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc il parle à ces Grecs aussi. Il leur annonce l'évangile. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc ça c'est le message de Jésus. Ensuite il y a un miracle. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc ces Grecs qui allaient à Jésus. Et là ils ne s'entendent pas du tout. Ils entendent déjà un sermon de la part de Jésus. Et ensuite une voix du ciel. Et au verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus, en fait, prêche l'évangile à ces Grecs. Mais le constat, il est clair au verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Intéressant, hein? Mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que fait André? André amène des gens à Jésus. C'est un petit peu ce qu'on voit et ce qu'on constate de cet homme, toujours en train d'amener des gens à Jésus. Alors qu'est-ce qu'on apprend de lui? Deux choses. Premièrement, il aimait conduire des gens à Christ. Que ce soit son propre frère, un jeune garçon ou des Grecs, André voulait que tous viennent à Christ, le rencontrent, le connaissent. Et c'est ce que j'aime particulièrement ici dans son témoignage, c'est qu'il a amené son propre frère à Christ. C'est intéressant parce que Jésus a dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, Marc 6,4. Donc il est en train de dire que c'est très difficile pour un prophète d'annoncer la vérité à sa propre famille. On est plus systématiquement rejeté par notre propre famille que l'on est par nos amis ou par des amis ou des connaissances. Mais, on pourrait conclure, alors ça veut dire que je dois négliger ma famille? Ben non. Ben non, la preuve, c'est qu'ici, Dieu a utilisé André pour amener son propre frère à Christ. Donc il faut essayer, mais avec beaucoup de tact et beaucoup d'amour. Moi, c'était un des grands privilèges de ma vie. Moi, j'étais converti en 1976. 4 ans plus tard environ, peut-être 3 ans plus tard, j'étais à Los Angeles. Moi, j'allais devenir steward, vous savez, dans une compagnie aérienne, mais j'avais 3 mois de battement. Et mon frère habitait à Los Angeles, mon frère n'était pas du tout chrétien, il était pilote, en fait, il amenait des gens à Las Vegas tous les soirs pour aller jouer là-bas, et il revenait à Los Angeles, il m'a dit, John, tu viens, on était très proches, mais maintenant moi j'étais chrétien et lui pas, donc ça met une grosse différence dans notre vie, mais on était très proches, très amis, et il m'a dit, viens. Alors je suis allé vivre avec lui à Los Angeles et il est dans une vie de débauche totale, alors c'était un peu compliqué parce qu'on vivait ensemble, j'étais dans son appartement, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annonce l'évangile directement à mon frère? Et je me suis dit, non, je lui dirai rien. J'ai le privilège de vivre avec lui pendant 3 mois, je ne dirai rien par rapport à ma foi, que ma vie ait un impact sur lui si Dieu veut utiliser ma vie. Mais à moins qu'il me demande, je lui dirai rien. Ça, c'est ce que j'avais décidé. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire comme ça, c'est ce que moi j'ai fait. Donc pendant 3 mois, j'ai vécu là, avec lui. Et j'allais à une église que je connaissais à Los Angeles. Et le jour J est arrivé où je devais partir, et donc il m'a pris dans son avion. Il est allé de Van Nuys à LAX. Il m'a pris en avion pour aller prendre l'avion pour aller pour devenir steward. Et c'était un moment assez émotionnel parce qu'on s'aimait beaucoup malgré nos grandes divergences dans notre vie chrétienne. Moi, je suis parti, et ensuite il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il a repris son avion, il est rentré chez lui, et là, il a pleuré comme un bébé dans l'avion. Il est arrivé à son appartement et moi je lui avais laissé deux choses sur son lit, sans qu'il le sache. Je lui avais laissé un cadeau, je ne rappelle plus ce que c'était, et un petit traité, le petit traité qu'on peut trouver à la maison de la Bible qui s'appelle « Connaître Dieu personnellement », le petit traité vert. Et j'ai mis ça sur son lit. Et mon frère est rentré chez lui, il a dit, il a vu ça, il a pris ce petit livre vert, il l'a lu, et à cet instant, il a dit « Jésus, deviens mon sauveur et mon Seigneur ». Et mon frère s'est converti ce jour-là, mais alors quelque chose de royal, mes amis. Et aujourd'hui, mon frère est encore pilote, un évangéliste hors pair. Jamais vu ça. C'est génial de voir. Et c'est vrai que lui et moi, on a vraiment des affinités aujourd'hui dans le Seigneur qui sont particulières. C'est un immense privilège que j'ai eu de pouvoir amener mon frère Jeff à Christ dans ce sens-là. Et que le Seigneur nous aide tous, quoi, vraiment à prier pour nos familles. C'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Mais ils ont besoin du Seigneur et ils vous regardent et ils nous regardent. Et que notre témoignage puisse vraiment être quelque chose qui les touche pour Christ. Donc voilà, il aimait conduire les gens à Christ, notre ami André. Et deuxièmement, je dirais qu'il était humble, un homme très humble. Imaginez devoir passer votre vie dans l'ombre d'un frère comme Pierre. Hein? Pierre, c'est le fonceur, le leader, celui qui était au centre de tout. On a l'impression, si on devait faire un film, là où il y a de la poussière, il y a toujours Pierre. D'accord? Mais c'est beau de voir qu'André, bien qu'aussi un des 12, était satisfait de ce qu'il était. Il était satisfait de son tempérament, de sa personnalité, des dons que Dieu lui avait donnés. Il n'avait pas besoin de se comparer à son frère. Il était satisfait d'avoir pu amener au Seigneur son frère. Et ensuite de pouvoir servir dans l'ombre de son frère pendant les années à venir. Il était effacé dans ce sens-là. Et là, je pense qu'il y a une grande leçon pour nous, mes amis. Dieu a besoin de gens comme Pierre, mais Dieu a aussi besoin de gens comme André. Dieu a besoin de personnes comme lui, des personnes convaincues, fidèles au travail d'amener des gens au Seigneur, des André qui sont d'accord d'être des seconds, qui permettent aux leaders de mener. Il faut des gens comme ça. En fait, l'Église dépend d'hommes et de femmes comme André. Une Église est pleine. Si une Église est pleine de Pierre, l'Église aura beaucoup de projets, beaucoup de visions, des grandes idées, mais elle n'ira nulle part. Il n'y aura personne pour les faire, ces projets. Ben ouais. On peut avoir des grands plans et des plans grandioses, mais s'il n'y a personne pour les mettre en œuvre, ben ça ne va pas marcher. Alors il faut des Pierres. Et il faut des André fidèles, des gens effacés, d'accord de labourer fidèlement pour le Seigneur avec les dons et les capacités que Dieu leur a donnés. Alors, qu'en est-il du reste de la vie d'André? Alors, c'est l'histoire qui nous le dit selon la tradition, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un livre qui s'appelle Fox's Book of Martyrs, un livre des martyrs, nous dit que dans les années de l'Église primitive et au-delà, quand André prêcha l'Évangile dans de nombreux pays de l'Asie mineure, la Cilicie et l'Achaïe, mais que lors de son arrivée à une ville qui s'appelle Edessa, il fut pris et il fut crucifié sur une croix, mais les deux côtés de laquelle furent fixés transversalement dans le sol, d'où est dérivé le terme la croix de Saint-André. Donc au lieu de que la croix soit comme ça, ils l'ont mise comme ça, et lui a été crucifié comme ceci, sur une croix transversale. Selon ce que nous dit l'histoire. Et si vous allez sur Google, vous verrez, si vous mettez croix de Saint-André, vous verrez ces croix. J'avais une photo pour vous, mais je ne pourrais pas vous la montrer. Donc voilà le portrait d'André, Pierre et André. Passons au troisième portrait. Le portrait de Jacques. Alors, sous-titre, tenez-vous bien, fils du tonnerre. Là, on vient de le rencontrer, d'accord? Jacques, fils de Zébédée. On est dans Marc 3, voici les 12 qu'il établit, Simon qui nomma Pierre, André verset 18 et verset 17, Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès qui signifie « fils du tonnerre. Alors, ce qui est intéressant avec Jacques, c'est qu'il n'apparaît jamais seul dans les évangiles. Il est toujours dépeint en présence de son frère Jean. Jacques et Jean vont ensemble. Notez aussi que le nom de Jacques apparaît toujours devant celui de Jean. Ce n'est pas Jean et Jacques, c'est toujours Jacques et Jean, suggérant le fait que Jacques fut sans doute l'aîné et peut-être le plus dynamique des deux. Excusez-moi. Alors regardez Marc 1. Marc 1. On apprend quelque chose d'eux. Au verset 16, comme il passait, donc Jésus était à Capernaüm, lorsqu'il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc bien qu'ils soient de l'origine, comme Pierre et André, du village de Bethsaida, ils sont maintenant à Capernaüm. Ils sont pêcheurs, en train de réparer leur filet lorsqu'ils rencontrent Jésus, et ils travaillent avec leur père dans une sorte de PME familiale. Je ne sais pas le nom, est-ce que c'était les fils Zébédée ou quelque chose, ils avaient un nom pour leur PME. Et nous savons qu'ils étaient probablement d'une famille assez aisée parce que Marc 1,20 nous dit que le père avait en plus des ouvriers. Et donc, quand tu as des ouvriers, ça veut dire que tu as une société qui marche assez bien apparemment. Alors, c'est intéressant que comme pour Pierre, si on retourne à Marc 2, on voit que Jésus a donné un nouveau nom à Jacques et Jean. Il dit bien au verset 17, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom Boanerges, qui signifie en araméen « fils du tonnerre ». Et pourquoi ce changement de nom de nouveau ? Eh bien, apparemment, ce nouveau nom reflétait la réalité de la personnalité de ses deux frères, et particulièrement de Jacques. Jacques avait un tempérament de feu, un tempérament d'éclat, de bruit, de tempête. Pire que Pierre, et ça on va le voir dans deux secondes, d'accord ? Je pense que c'était lui, parmi les deux frères, qui avait la plus forte personnalité. Alors, il y a trois incidents qui nous aident à connaître cet homme. Regardez avec moi Luc 9. Luc 9. On est dans Luc 9, et à partir du verset 51. Et ce qu'on est en train de voir ici, c'est que le zèle, c'est bien, mes amis, mais il faut que le zèle soit jumelé d'amour. Zèle sans amour, ça peut être vraiment destructeur. D'accord ? Regardez, 9:51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc il est en Galilée, Jésus est en Galilée, au nord d'Israël, et décide d'aller à Jérusalem dans le sud, parce que c'est là où il doit être crucifié. Verset 52, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Alors le voyage allait prendre 2 ou 3 jours, et donc c'est ce qu'ils faisaient, puisqu'ils étaient tout un outre, il n'y avait pas que 13 personnes, ils étaient probablement 20, 30, il y avait toutes sortes de personnes, donc il fallait que quelqu'un de la logistique et en avance pour préparer un logement. Ça se préparait. De nouveau, il n'y avait pas des hôtels à droite et à gauche, c'était un peu plus compliqué. Donc il envoie ses messagers pour un logement pour la nuit, et il rentre dans un bourg samaritain. Parce que la Samarie se trouvait entre la Galilée au nord, Juda au sud, où il y a Jérusalem, et entre, il y avait la Samarie. Et le problème avec la Samarie, c'est que les Samaries, c'était les Samaritains. Et les Samaritains, c'était une race mixte. À l'époque, quand l'Assyrie est venue prendre le nord, eh bien, ils ont laissé des Assyriens, et ces populations se sont, sur les années, se sont mêlées, entremêlées, d'accord, et ils ont produit une race mixte. Et alors, les Juifs du Sud, race pure, détestait ces traces demi-races impures. D'accord ? Donc, il ne s'aimait pas du tout. Donc, il dit, mais on doit passer par la Samarie, et donc il faut trouver un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. C'est clair, les Samaritains refusent de recevoir ces hommes. Oui, parce qu'il y avait un problème entre eux. Et donc, ils sont chassés de cette ville samaritaine. Et ils retournent à Jésus pour raconter ce qui s'est passé. Ouais, mais attends, on a essayé, mais ils nous ont chassés. Et ils ont dit non pour un logement. Alors, verset 54, entrée inattendue de Jacques et son frère Jean. Notons bien les deux ensemble. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, donc ils ont entendu parler, ils ont vu, ils ont entendu dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Vous savez ce qu'ils sont en train de dire ? Jésus, t'en fais pas, on s'occupe. On va tous les brûler. On va les cramer, ces gens. Ils méritent l'enfer. Ça, c'est du zèle. Qu'ils brûlent tous. C'est exactement ce qu'ils disent, là. C'est quand même marrant, hein. Est-ce que vous pensez que Jacques et Jean avaient un léger manque de compassion ? Juste petit. Est-ce qu'ils avaient vraiment un cœur missionnaire ? Je ne sais pas s'ils y étaient encore par rapport à cela. En verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. » Il les réprimande. Parfois, les gens ont besoin d'être réprimandés, et certains plus que d'autres. Les gens qui ont un grand zèle doivent parfois être freinés. Jésus leur dit tout simplement, écoutez, ce n'est pas le moment du jugement. Le jugement viendra. Lorsque Jésus reviendra un jour, ça, ce sera vraiment le moment du jugement. Là, la terre va brûler. Ça, on le sait. Mais c'est pour plus tard. Aujourd'hui, c'est le moment de grâce et l'appel au salut. Alors, pourquoi est-ce que Jésus les réprimande ? Bien, probablement, parce qu'ils avaient de la haine dans leur cœur. Ils étaient intolérants, racistes, ils avaient un manque de compassion. Ils avaient beaucoup de zèle, mais un manque d'affection pour les autres. Alors, peut-être pour parler positivement de Jacques et Jean quand même, qu'est-ce qui a vraiment motivé même ce qu'ils ont dit ? Sans doute leur amour pour Jésus. Ils aimaient Jésus profondément et ils ne pouvaient pas imaginer et tolérer quelqu'un qui n'allait pas ouvrir leur porte au Sauveur. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Moi, j'ai un ami qui était missionnaire dans les pays arabes pendant 25 ans. Et avant d'aller dans les pays arabes, il est allé en Inde pendant un an. D'accord ? C'est un ami à moi qu'on soutient. Mais on le soutient encore financièrement. Ils ne sont plus là-bas. Ils ont dû rentrer pour des problèmes de santé. Mais il était en Inde et il était à Bombay. C'était une période de sa vie où il y avait beaucoup de changements. Et un jour, je parlais avec lui. Et il m'a avoué, il m'a dit, John, un jour après 6 ou 7 ou 8 mois à Bombay, j'étais dans la rue et j'en avais tellement marre de tout, de l'Inde, des Indiens, de la saleté, de la pauvreté, j'en ai marre de tout. Il a crié dans une rue à Bombay de toute sa voix, allez tous en enfer. Un missionnaire. Il a dit ça, allez tous en enfer. Ah, les missionnaires sanctifiés pour le Seigneur, ouais, on peut avoir des mauvais moments. Et là, il a réalisé, mais qu'est-ce que je fais ? Et ce gars qui s'appelle Bob a servi, après ça, 25 ans au Maroc et ensuite en Jordanie. Et quand on est allé le voir en Jordanie, il y a quelques années en arrière, il était à la douane. Quand je l'ai vu, on a traversé l'Israël en Jordanie, il était là en train d'annoncer l'évangile à un Jordanien à la douane. C'était génial. Je voulais prendre une photo, j'ai oublié, c'était pas encore l'époque des iPhones, d'accord. Mais vraiment, c'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé. Mais il me rappelle beaucoup Jacques et Jean. Vraiment, les missionnaires peuvent avoir des mauvais jours. Et lui, il en a eu un vrai mauvais jour. Mais c'est pas fini avec Jacques. Matthieu 20, regardez. Matthieu 20, tellement intéressant. Vous connaissez aussi cette histoire. C'est intéressant de la voir dans le contexte de l'analyse de cette vie. Deuxième événement qui nous décrit cet homme, verset 17. « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, Matthieu 20, 17, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient et le troisième jour il ressuscitera. » Donc Jésus annonce tout simplement aux 12 disciples qu'il va mourir. Alors bien sûr, on peut imaginer la réaction des disciples, mais qu'en est-il de nous une fois que tu partiras ? Entrée étonnante de Jacques et Jean, absolument époustouflant verset 20. Alors, et pas que Jacques et Jean, avec leur maman. Leur mère, la maman de Jacques et Jean est là. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Donc, là, alors c'est intéressant, ils sont en voyage, et là, il y a la maman de ces deux fils qui est là aussi. Et qui fait la requête ici ? Qui prend l'initiative quelque part ? Du moins, l'impression qu'on a, c'est la maman. Donc, elle est là. Jacques et Jean, venez, venez mes enfants, venez, venez, on va aller voir Jésus, d'accord ? Elle se prosterna pour lui faire une demande. Donc, elle va faire une demande à Jésus, avec fils 1 et fils 2 à côté d'elle. Voici la requête au verset 21. Il lui dit, « Que veux-tu ? » Elle dit, « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Vous savez, on lit cette requête, on se dit, « Mais c'est tellement chou. Quelle gentille petite maman qui vraiment a à cœur ses deux petits-fils. Oh Jésus, s'il te plaît, regarde, ils sont tellement mignons, tu ne pourrais pas simplement les honorer un peu, d'accord ? » C'est beau, non ? C'est mignon. Alors, regardons d'un petit peu plus près, d'accord, ce qui se passe ici. Premièrement, qui pose la question ? La mère. Mais regardez le verset 22. À qui répond Jésus ? Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Et regardez ce qu'il dit après. « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dire-t-il. » Il répond à qui ? Il répond aux deux fils. Il n'est pas bête, Jésus. Il dit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. » Non, mais on a l'impression qu'il y a quand même les deux fils qui ont utilisé leur maman. Écoute, maman, c'est toi, tu vas, ça marchera. C'est des manipulateurs, ces deux gars, c'est sûr et certain. Et ils utilisent leur belle petite maman touchou pour faire leur travail. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Et on sait, mes amis, que le problème est avec eux. Verset 23, il leur répondit, il est vrai que vous boirez... Ben, ils répondent oui, d'accord, nous le pouvons, dirent-ils, verset 22. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour vous qui êtes assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il sera donné à ceux qui, à mon père, l'a réservé. Regardez verset 24. Les 10 autres disciples, ayant entendu cela, furent indignés contre qui ? Contre les deux frères. Ah, c'est clair et net. Clair et net. Ils sont indignés, remplis d'indignation. Ça veut dire écœurés, révoltés, scandalisés. Littéralement, sentiment de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale et le sentiment de justice. Les 10 sont en colère que eux, ces deux frères, ont pu faire une telle chose, manipuler leur mère pour faire cette requête. Et je pense que peut-être ils étaient indignés parce que eux, ils y avaient pensé avant que eux-mêmes, ils auraient dû y penser. Et regardez, attention, maintenant dans le groupe, verset 25, Jésus les appela et leur dit, Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Jésus donne un discours ici sur quel est le vrai sens de la grandeur et de l'honneur dans le royaume de Dieu. Il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, quoi ? Qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Moi, je crois qu'il y a deux leçons ici. Ces deux hommes, et puisque Jacques est leader, on va parler de lui, ils étaient déjà privilégiés, ils faisaient partie du premier groupe de 12, le groupe le plus intime autour de Jésus. Mais ce n'était pas assez pour eux. Ils étaient insatisfaits. Ils voulaient plus. Ils voulaient être à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Ils voulaient l'honneur sans le recevoir selon le critère du Seigneur. Ils voulaient les accolades et les honneurs sans passer par le service. Mais Jésus le dit clairement, l'honneur vient par notre engagement à servir les autres, pas en marchant par-dessus les autres pour se monter vers le haut. Non, c'est l'homme humble qui sera honoré. Je crois qu'il y a une deuxième leçon ici, c'est pareil, soyons contentés de ce que Dieu nous donne. Dans 1 Timothée 6, le contexte est l'argent. L'argent, c'est un très bon exemple. 1 Timothée 6 dit dans le contexte des richesses, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Si on n'est pas contenté globalement par ce que Dieu nous donne, eh bien on va toujours vouloir plus et plus et plus. Et ça, c'est horrible. Parce que c'est jamais assez. Et eux, c'était pas au niveau de l'argent, pour eux, c'était au niveau de la gloire. Il voulait plus de gloire. Et le mécontentement, mes amis, et l'insatisfaction par rapport à l'honneur ou à la richesse ou autre chose, vont mener tôt ou tard à l'amertume et à la colère, même à la manipulation, et certainement à la ruine. Et donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut régler dans son cœur. Seigneur, voici, tu m'as donné un certain lot dans la vie, alors c'est pas un mal de vouloir un meilleur travail, etc. D'accord, il y a un avancement normal dans la vie. Mais ça peut devenir un amour pour ces choses. On n'est jamais satisfait avec ce que Dieu nous donne, et ça c'est un grand mal. Regardez les versets 22 et 23. Je n'ai pas vraiment lu. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Ils répondirent, « Nous le pouvons. » Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe ?» Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Vous savez, c'est intéressant, Jésus a répondu à ses frères, « Vous voulez recevoir une récompense pour votre zèle ? Voici la récompense que vous allez recevoir. La mort. La mort. Cette coupe dont parle Jésus, c'est leur mort. » Ces deux hommes voulaient une couronne et ils ont reçu une coupe. Cette coupe est symbolique pour la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus avait raison. 14 ans plus tard, Jacques... Mais écoutez, allons-y. Acte 12. Regardez la fin de la vie de Jacques. Alors Jacques, bien sûr, il a appris sa leçon. Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire. Je pense qu'avec sa maman, là, c'était peut-être le point bas de sa vie, d'accord ? Il a réalisé, waouh, je ferais mieux de commencer à servir, d'accord ? Donc il a commencé à servir. Et regardez ce qui se passe. On est dans acte 12, verset 1. Donc là, c'est dans acte 12, hein, donc c'est beaucoup plus tard. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc Jésus est mort, il est déjà monté au ciel. Là, maintenant, c'est l'expansion de l'Église. On verra en détail dans notre cours théologique qui va commencer en octobre. Mais ce que j'aime avec ces versets, c'est que ils montrent la transformation foudroyante qui s'est produite dans la vie de Jacques en 3 ans avec le Seigneur. Donc, Hérode décide de maltraiter les membres de l'Église. Voilà, l'Église était impopulaire, vous le savez très bien. Jésus était impopulaire, ils l'ont crucifié. Les disciples, les apôtres, tous les chrétiens, ils les détestaient. Pourquoi? Parce que le christianisme doit mettre toujours le doigt sur le péché de l'homme. Le christianisme, c'est le pardon des péchés. Donc tu dois reconnaître ton péché pour être pardonné. Ben, les gens, ils aimeraient être pardonnés, mais sans devoir reconnaître leur péché, c'est ça le problème. Et quand tu leur dis non, tu es pécheur et tu es sous l'offense de Dieu, ben, les gens, ils n'aiment pas ça. Et tu sais que ton péché mérite des peines éternelles. Ah non, écoute, là, franchement, là, tu es en train de déranger ma paix. Oui, non, mais c'est la vérité. Oui, mais j'aime pas. Ouais, ben, voilà le problème avec l'Évangile. L'Évangile est impopulaire. Bref, Hérode ne met pas l'Évangile et il se met à maltraiter quelques membres de l'Église. Et regardez le verset 2, absolument incroyable. « Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » C'est intéressant que Hérode s'est dit « Que dois-je faire pour frapper un gros coup à l'Église ?» Il faut tuer Jacques. Il faut tuer Jacques. Mais regardez la suite. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi. Excusez-moi, j'ai oublié le verset 3 que je suis bête. C'est le plus important là. Enfin, pour ce que je voulais dire maintenant. Je relis le verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, donc Hérode. Tue Jacques, les Juifs. Super Hérode, continue. Regardez ce qu'il fait. Il fit encore arrêter Pierre. Donc les deux apôtres hyper zélés là. Il tue Jacques et il arrête Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Donc ça fait 16 soldats. Chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il tue Jacques, mais il fait emprisonner Pierre. Alors moi je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il emprisonne Pierre, mais qu'il tue Jacques? La réponse est sans doute que Pierre n'était pas un si grand problème que Jacques. Pierre était un rocher solide, un homme fonceur, mais apparemment un homme relativement doux, imaginé, comparé à Jacques. Jacques, c'était l'éclair, c'était le tonnerre. Et peut-être que son zèle perturbait particulièrement la société hérodienne et juive de l'époque. Et moi je pense que ça nous donne un indice fascinant sur le genre d'homme que devait être Jacques. C'était l'homme. Voilà, moi je le compare à Guillaume Farel, pour ceux qui sont venus sur le tour de la Réforme la semaine dernière. Guillaume Farel, même sur le mur de la Réforme, il est là avec son poing fermé. C'est lui qui est venu à Genève, c'est lui qui a prêché. On disait, mais c'était un prédicateur dans la figure des gens, quoi. Aucun tac, paf, paf, paf. Et toutes sortes de villes en Suisse ont capitulé à l'Évangile à cause de Farel. Et c'est lui qui a dit à Calvin, Calvin, si tu viens pas à Genève mener la Réforme, que Dieu maudisse toutes tes études. Ben ça a marché, et Calvin est venu. Voilà, je pense que Farel et Jacques étaient très similaires l'un et l'autre. Il faut les Jacques, mais avec humilité et avec amour. D'accord? Jacques, ok. Humilité, ok. Amour, ok. Service, ok. Amen. Écoutez, on va faire Jean très vite. Alors bien sûr, Jean, il y a beaucoup à dire, mais on vient de le voir en fait. Parce qu'il est intéressant, mes amis, c'est que c'est Jacques et Jean qui étaient les fils de tonnerre. Et ce que je trouve intéressant avec Jean, on passe à Jean, c'est pas comme ça que vous le percevez, Jean. Je le sais très bien, parce que l'art chrétien nous a fait défaut. L'art chrétien, quand il dépeint Jean, Jean, il est comment? Jean, c'est toujours un homme plutôt doux, d'accord? Blanchi, effacé, souriant, avec la tête sur la poitrine de Jésus. Hein, vous connaissez un petit peu les tableaux là. C'est Michel-Ange, je crois, qui a fait le dernier. Comment on appelle ça la scène, hein, la Sainte Scène. C'est Michel-Ange. Est-ce que je me trompe? Les artistes, vous m'aidez? C'est juste. D'accord, ouais, d'accord. Et donc Jean, il est un peu. C'est Da Vinci? Ah, Da Vinci, d'accord. Bon, je vois qu'on n'est pas très artiste ici, hein, d'accord? Mais c'est pas grave. On peut pas tout avoir dans une église. Alors, c'est plus... Merci Elsa, c'est Da Vinci, d'accord? Il y a une artiste, ou bien peut-être elle a aussi un iPad qui a marché très très bien, d'accord? Amen pour les iPads ou les iPhones. C'est un iPad qui t'a aidé? Non, c'est ta mémoire. Très très bien, c'est super, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça qu'on le dépeint, mais c'était un fils de Zébédée. C'est lui, avec son frère, qui voulait amener le feu du ciel pour détruire les Samaritains. Il y était aussi, il avait la même pensée. C'était lui qui était à côté de sa maman, dans Matthieu 20. C'est lui qui a manipulé sa mère pour qu'il soit monté d'un cran. Allez avec moi à Marc 9, regardez, Marc chapitre 9. C'est un petit passage assez intéressant parce que c'est le seul endroit ou un des seuls endroits où nous voyons Jean agir sans son frère. D'accord ? Marc 9, 38. Il est sans son frère. Alors imaginez, s'il est comme son frère, ce qu'il va sans doute faire ici. Il est fâché contre quelqu'un. C'est marrant. Les deux frères sont pareils. Regardez verset 38. Oui, 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Donc ils ont vu un homme, là ils se baladaient, ils ont vu un homme qui chassait des démons au nom de Jésus avec succès. Mais les disciples ne le connaissaient pas. Et donc cet homme n'était pas ouvertement allié avec eux. Et Jean est fâché contre lui. Il est fâché contre lui, il lui dit, « Arrête de faire ces miracles, arrête de chasser des démons au nom de Jésus parce qu'on ne te connaît pas. Pourquoi ? Parce que Jean ne peut pas comprendre cette ambiguïté. Ou bien tu es disciple de Jésus et tu t'allies avec eux pleinement et donc tu suis le groupe, ou bien c'est un faux. Et donc il est frauduleux. Et donc il faut l'arrêter. Hein, ils étaient noirs et blancs ces deux. C'était son tempérament. Donc c'est intéressant, moi, j'essaie de me rappeler que Jean avait le même tempérament que Jacques. C'est difficile pour moi de mettre ça dans ma tête. Au verset 39. Jésus répond, « Ne les empêchez pas, répond Jésus, car il n'y a personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Jésus répond, cet homme n'est pas une fraude, car il réussit à chasser des démons par le nom de Jésus et apparemment pointer à Jésus comme étant la source de son pouvoir, selon Jésus, parce qu'il le connaissait, était l'authentification et la validité du ministère de cet homme. Donc c'est Jean. Mais Dieu l'a transformé. Allez avec moi. À Jean 13, très vite. Et c'est ce verset certainement qui a influencé l'art chrétien par rapport à lui. Jean 13 et le verset 23. Ils sont dans la chambre haute, en train d'avoir ce dernier repas ensemble, où il y a la sainte scène qui est célébrée, la première scène. Et Jean 13, 23, il est dit tout simplement ceci, un de ses disciples, celui que Jésus aimait, contexte Jean, était couché sur le sein de Jésus. Il faut comprendre que lorsque les gens au Moyen-Âge à l'époque mangeaient, ils n'avaient pas des tables et des chaises comme nous. Ils étaient sur des coussins, et ils étaient couchés comme ça, d'une manière où ta tête était proche du sein de la, ou de comment dire, du corps de l'autre personne. Et comme ça, toutes les têtes étaient à l'intérieur du cercle et les jambes étaient à l'extérieur. Donc c'est dans ce sens-là. Il était bien sûr dans le premier groupe à côté de Jésus. Sa tête proche de la poitrine de Jésus. Donc, cette scène montre que, et on voit qu'il y avait une relation d'amour très proche entre Jésus et lui. Jésus, hein, et ça il faut le dire, il avait ses disciples préférés. Alors, j'aime pas ce terme, mais il avait certains disciples avec qui il était un petit peu plus proche, amicalement. Le premier groupe, Pierre, Jean, Jacques, André, ces gens du premier groupe. Et là, il est dit clairement, il était celui que Jésus aimait. Donc, il y avait une affinité particulière entre lui et Jésus. À tel point... Allez avec moi à Jean 19, vraiment intéressant, à tel point maintenant on est à la crucifixion et Jésus est sur la croix, crucifié. Verset 16, Jean 19, 16, alors il leur livra pour être crucifié. Et ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent, et Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomma en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Donc, il est crucifié. Et vous savez que Jésus ne meurt pas immédiatement, il parle sur la croix, il dit certaines choses, il y a les dernières paroles de Jésus qu'on dit, et une se trouve à partir du verset 25. Jésus est crucifié, il commence à parler, et il est dit ceci, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, donc Marie, la maman de Jésus, et la sœur de sa mère, donc sa tante, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc il y avait Marie et ses autres dames, avec en plus Jean, le disciple qu'il aimait, qu'on a vu dans Jean 13. En voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et au verset 30, quand Jésus prit du vinaigre, il dit, tout est accompli, et il baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est très intéressant, mes amis, que la dernière chose que Jésus fait, avant de mourir, c'est de confier sa propre maman à quelqu'un pour prendre soin d'elle. Donc il s'occupe de sa famille. Et il confie sa maman à Jean. Ça, c'est un homme doté d'amour. À qui est-ce que tu vas confier ta propre maman? Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Jean, fils de Zébédée, est un homme que Jésus a choisi pour être un de ses plus proches disciples. Un des deux frères de Zébédée, fils de tonnerre, zélé, radical, intolérant, ambitieux, mais Jean, comme son frère Jacques, a totalement été transformé par Jésus. Totalement. Doté d'un amour profond pour le Seigneur, pour la vérité et pour les perdus, Dieu, en fait, a donné à Jean un des plus grands honneurs imaginables. Vous savez ce que c'est? Jean a écrit 5 des 27 livres du Nouveau Testament. Ce même Jean, l'évangile de Jean, 1, 2, 3 Jean, et Apocalypse. Mes amis, ça, c'est la grandeur de la grâce de Dieu dans une vie. Ce manipulateur transformé, auteur de 5 livres du Nouveau Testament. Moi, j'ai des frissons à y penser à ça. Nous savons qu'il devint un membre proéminent de l'Église de Jérusalem. Irénée affirme qu'après avoir quitté Jérusalem, il est devenu l'évêque d'Éphèse. Marie, la mère de Jésus, aurait suivi Jean à Éphèse pour vivre sous sa protection et sa garde en accomplissant le vœu de Jésus. Mais vers la fin du 1er siècle, Jean fut capturé et exilé à l'île de Patmos, selon Apocalypse 1:9, où il a reçu la vision de Dieu sur les événements de la fin des temps qui nous sont relatés dans le livre d'Apocalypse. Et ça, mes amis, ça nous amène au cinquième disciple, Philippe. Et ça, on le verra dimanche prochain. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez en écoutant, en ayant entendu ces portraits aujourd'hui. Je ne sais pas, moi je suis tellement encouragé. On peut se regarder soi-même, on se dit, moi, est-ce que Dieu peut vraiment m'utiliser, moi? Écoutez, si vous avez un doute, rentrez chez vous et réécoutez le message. Parce que Dieu, il est champion à prendre quelqu'un et à le transformer. Et ça, c'est ce qu'il veut faire, pas de eux seulement, mais de nous. De nous, de toi et de moi. Que tu sois un zélé comme Pierre ou comme Jacques, ou quelqu'un comme André. Reviens dimanche prochain pour la suite. Tous ces autres portraits sont vraiment intéressants. Que le Seigneur nous aide.